Bonjour mon cher Alain.
Bonjour, j'aime beaucoup votre présentation. Bonjour Eric, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain, bien-aimé ne veut pas dire aimable.
C'est vrai aussi.
Bienvenue au club.
C'était une blague.
Évidemment.
Pour les auditeurs qui vont croire qu'on vous déteste.
Mais non. Certainement pas. On va parler d'André Michaud ce matin à la Barenton. André Michaud est né en 1746. À deux pas du château de Versailles où vous travaillez.
Eh oui, j'avais envie de parler de cet homme parce que finalement on le connaît trop peu. Son père est fermier du roi et comme le veut la tradition, il lui succède. En 1769, il a 23 ans, André Michaud se marie, mais il a la douleur de perdre son épouse l'année suivante, quelques mois seulement après la naissance de son fils. C'est pour lui, on s'en doute, un drame, et il décide alors de changer de vie et quitte l'exploitation familiale.
Et André Michaud était jeune, passionné par la botanique.
Eh oui, et pour apprendre, il va suivre en 1777 les cours prodigués par Bernard de Jussieu dans les jardins de Trianon. Alors Bernard de Jussieu, c'est l'immense botaniste. Alors deux ans plus tard, Michaud part en Angleterre, puis au Moyen-Orient. Il observe la flore, réalise un herbier et collecte les graines de toutes sortes. La qualité de son travail force l'admiration et Louis XVI, en personne, le sait et séduit et le nomme botaniste royal.
Et en 1785, un accord commercial est signé entre la France et les États-Unis.
Et oui, cela fait suite à la venue en France de Thomas Jefferson, alors ambassadeur. Et André Michaud est choisi pour cette mission et c'est donc lui qui va fournir aux Américains les végétaux les plus beaux pour leur jardin. En échange, les Français recevront eux aussi en quantité des plantes qui viennent des États-Unis. Alors sachez qu'aujourd'hui, si les Américains peuvent profiter du théier, du lilas des Indes, de l'albizia, de l'homme de Sibérie ou encore du ginkgo biloba, ils le doivent à André Michaud.
Et André Michaud, un homme qui a du caractère, c'est moins qu'on puisse dire.
Une anecdote le prouve incontestablement quand il peut à nouveau prendre la mer en 1801, direction l'Australie. Après quelques semaines en mer, il apprend du commandant Nicolas Baudin que les savants auront obligation, sitôt revenus en France, d'abandonner leur découverte au profit de l'État. Les ordres viennent d'en haut, ils ne se discutent pas. Michaud n'accepte pas d'être dépossédé des végétaux qu'il espérait trouver. Il sait bien évidemment que c'est le gouvernement, que c'est le premier consul qui finance les recherches et qu'il est normal que celui-ci soit destinataire des merveilles, mais il sait qu'une fois à terre, il ne pourra plus les étudier librement et ça, il ne le veut pas, il ne l'accepte pas. Il demande donc, et là il en faut du courage, d'être débarqué dès que possible et il quitte le bateau quand il accoste à l'île de France, actuelle île Maurice. Vous imaginez un instant, vous êtes sur un bateau.
Gros tempérament.
Vous dites, laissez-moi là et vous descendez tout seul à l'île Maurice.
Et
moi,
je débarque.
Dis, chapeau.
Et que devient André Michaud ensuite?
Là encore, il va explorer le territoire, il va refaire une flore, il va encore reconstituer une pépinière. Il part ensuite à Madagascar, mais là, malheureusement, les fièvres tropicales ont raison de sa santé. Il meurt le 11 octobre 1802. Il avait 56 ans, donc histoire courte, tragique, et son fils lui succédera. Mais il est vrai que André Michaud fait partie de ces personnes qui font honneur à la corporation.
Eh bien, merci de lui avoir rendu hommage ce matin. Alain Baraton, jardinier de Versailles. Vos réponses aux questions et vos conseils aux questions et interrogations des auditrices et auditeurs de France Inter. Myriam dit qu'elle a planté un saule doré dans un lieu humide et ensoleillé. C'était il y a 6 ans et puis depuis, nous n'avons jamais vu cette couleur dorée, j'imagine. Cette couleur que nous espérions en fin d'hiver. Comment l'expliquer?
S'il est doré, c'est pour la couleur de son écorce. Si on pense trop peu aux écorces décoratives, en hiver, c'est dommage. Vous avez les cornouillers, par exemple, qui eux aussi offrent des couleurs incroyables. Mais les écorces colorées, généralement, viennent des jeunes pousses. Donc pour que le saule doré soit éclatant, soit incroyablement jaune en hiver, il est préférable d'avoir de jeunes pousses. Donc il est conseillé de tailler le végétal. Sinon, les rameaux jaunes vraiment vifs, les brindilles que produit ce végétal, c'est assez étonnant, finissent avec le temps par là-bas cette couleur à s'estomper. Donc il faut tailler court le saule doré pour qu'il soit pas semblable à une chevelure blonde tout au long de l'hiver.
Très bien. À propos de cosmétiques, j'allais dire, pourquoi mes verveines citron deviennent des espèces de plumeaux, un peu moches, quand ceux de mon ami font de belles boules bien denses? On parle de verveines citron. Hein.
Oui.
Alors, que dois-je faire? J'ai sûrement fait quelque chose de mal. Mal taillé, peut-être?
Peut-être pas écouter la radio sur Inter le samedi ou le dimanche, où j'ai déjà expliqué que la verveine citronnelle se taillait en février. On la taille relativement court pour éviter justement que la base se dégarnisse. Et puis les fleurs de cette verveine, elles sont peut-être pas trop mal. Mais si on cultive cette verveine, c'est pour ses feuilles, pas pour ses fleurs. Donc après la floraison, on coupe les fleurs pour qu'elles n'apparaissent pas. Donc coupe légère à l'extrémité des tiges, en août, suppression, enfin coupe très court en février, et foie de baraton, la plante.
On n'a pas compris. En février, en août, là.
C'est-à-dire qu'en août, la plante va fleurir. Mmh. La floraison n'a pas d'intérêt. On coupe au niveau des fleurs pour éviter que la plante ne s'épuise. Et en février, on recoupe à nouveau, mais court, pour que la plante reste vraiment compacte. Mmh. Et j'étais clair, Madame Martin.
Oui, merci, Monsieur Baraton.
Rapidement, question d'Étienne. Doit-on brosser délicatement l'écorce pour enlever la mousse qui s'est installée sur les branches, ou bien doit-on laisser l'arbre tranquille?
Si ça vous amuse, vous pouvez le faire. L'arbre aussi s'en amusera.
Bon, bah très bien. Un dernier conseil pour le week-end, avec des livres ce matin. Oui. Vous êtes venu avec beaucoup de livres.
Non, avec un seul. Je vous rassure. Non, les autres, je les lis avant d'en parler. Donc voilà, oui, quand même. Les Lettres de mon jardin, Jean-Michel Crillaud, c'est un premier ouvrage. Notre homme est jardinier, il est amateur. Il a décidé de faire un abécédaire pratiquement amoureux de son jardin. C'est drôlement bien écrit. C'est une coédition Salamandre et Terre Vivante. Et pour la petite anecdote, cet homme offre tous ses droits d'auteur aux revues environnementales. Je trouve ça extrêmement élégant. Lettres de mon moulin. Ça se lit avec délectation, avec plaisir, avec bonheur.
Et ça coûte combien?
Eh bien, ça coûte quelques euros seulement. Mais là, je retourne l'ouvrage.
Il n'a pas préparé le prix.
Voilà, 25 euros.
Merci, monsieur.
Les photos sont également de l'auteur. Très belles photos, au passage.
Très bien,
rappelez-nous. Je vous l'offre, Madame Martin.
Rappelez-nous, on a beaucoup parlé, donc rappelez-nous pour être synthétique.
Les Lettres de mon jardin, de Jean-Michel Caillot, publié. C'est une coédition, La Terre Vivante et Salamandre.
Merci, Alain Baraton, et puis à demain. À demain, Alain.
Avec
plaisir. Il est 8h moins 10.